Frères et sœurs, pourquoi cette urgence de se convertir, de croire à l'Évangile, car le règne de Dieu est proche, dit Jésus, dans l'Évangile de ce jour, Saint Marc. Et cette phrase un peu étonnante du livre de Jonas, première lecture à la fin, vous pouvez vérifier sur votre feuille, en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Alors Dieu menace? Dieu peut envoyer un châtiment? Dieu a-t-il des émotions? Est-ce que Dieu d'ailleurs peut changer d'avis? C'est quoi cette histoire? Peut-il être joyeux, triste, coléreux, voire comme l'avait dit un psychiatre à la radio, où il disait « si je devais mettre quelqu'un à l'asile, je mettrais Dieu tout de suite » dans ce qu'on dit dans la Bible comme caractériel. Il se pose là. Vous voyez ou pas les enjeux pour notre foi et les reproches parfois que l'on nous fait d'avoir fait un Dieu à notre image, à mon image, alors que dans la Bible, c'est exactement le contraire. L'homme et la femme sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un sujet extrêmement complexe que les émotions de Dieu. Et Dieu sait qu'il est compliqué, frères et sœurs, d'être saint sans être simpliste. Comment d'abord penser ou dire Dieu sans utiliser ce qui m'anime, ce qui fait ma culture, ce qui fait mon vocabulaire? Comment dire Dieu sans partir de mes émotions, avec le risque, effectivement, de faire un Dieu à notre image, comme on nous l'a reproché, un Dieu opium du peuple, cocaïne du pauvre, ivresse de l'ignorant, comme on l'entend parfois dans les médias. Vous êtes croyant, si vous avez un problème à régler, vous prenez Dieu pour un médicament. Ce n'est pas du tout ma foi, en tout cas. Alors on pourra utiliser parfois des métaphores, des images, qui demandent à être traduites quand elles sont un peu compliquées pour dire Dieu. Et effectivement, quand on lit la parole de Dieu, on voit parfois que Dieu se met en colère. On parle de la colère de Dieu, qui signifie le jugement, le discernement. Ou alors, on va dire que Dieu est jaloux. C'est très souvent que Dieu est jaloux. Nous avons un Dieu jaloux pour peut-être rendre compte de l'exclusivité que Dieu réclame de nous. N'allez pas aux idoles. Je veux ton amour, dira Dieu. Et Dieu sait, frères et sœurs, que la jalousie est vraiment un vilain défaut. Vous avez tous été au moins, j'espère, jaloux ou jalouse une fois dans votre vie. Et vous savez que notre cœur est dans l'amertume. Nous n'aimons pas être jaloux. Et l'autre qui est jaloux n'est pas très beau, n'est pas très belle. Ou alors, on pourra prendre cette métaphore de Dieu qui est mon rocher. Il ne faut pas faire polytechnique pour comprendre que ça ne veut pas dire que Dieu est une grosse pierre qu'on va extraire de Saint-Jean-la-Poterie, mais que Dieu, dont l'amour est tellement beau et puissant qu'il est mon rocher, je peux m'appuyer sur lui. Tu es pour moi quelqu'un de stable, de solide, de posé. Dieu est mon rocher. Et pas comme l'avait dit quand on était au séminaire, un séminariste qui avait dit à un des copains, tu as une planche pourrie. C'était pas un compliment. On ne peut pas s'appuyer sur toi, sinon on va couler. Ou encore, on pourrait essayer de fonctionner, frères et sœurs, par analogie. Quand on dit que Dieu agit avec bonté, toute proportion gardée, c'est ce qui ressemble à la bonté peut-être des parents pour leurs enfants, des grands-parents pour leurs petits-enfants, dont ils font preuve à l'égard de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Qui d'entre vous, dit Jésus, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Combien plus votre Père du ciel qui est bon vous donnera-t-il de bonnes choses à vous qui êtes mauvais, dit Jésus. Donc c'est une similitude, une analogie. Dieu est bon. Comme toi, tu peux être bon avec tes enfants ou tes petits-enfants. Et combien plus, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, c'est une dissimilitude, combien plus Dieu est infiniment grand et bon envers vous. D'accord ? On prend donc des choses qui nous permettent de comprendre combien Dieu nous aime. Dieu renonça au mal dont il les avait menacés. Jonas, Dieu renonça au mal, au châtiment dont il les avait menacés et l'urgence de proclamer l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, un, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Sinon, vous faites de lui un dieu de la mythologie grecque. Il ne faut surtout pas vexer parce que sinon, il va t'arriver malheur. Non, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la mythologie grecque. Deuxièmement, il me semble, les émotions de Dieu sont des actes saints de sa volonté. Les actes saints de sa volonté qui signifient ceci. Dieu est engagé pour sa créature. Dieu s'engage pour l'humanité totalement, totalement. Les émotions que l'on peut lire dans la Bible sont une modalité de son engagement. Ça signifie que Dieu n'est pas neutre, Dieu n'est pas indifférent à tes souffrances, à ta tristesse, à ta joie, au combat que tu as à mener parfois dans ta vie. Voilà. Et les émotions vont dire que Dieu est près de toi. Il s'engage pour toi. Et cet engagement de Dieu pour nous, sa volonté de nous rejoindre, et c'est là le problème, ne peut pas passer au-delà de notre liberté. Tu resteras toujours libre. Tu peux dire oui à Dieu et tu peux lui dire zut, pour être poli. Tu peux refuser Dieu. La foi, frères et sœurs, la foi est bien la confiance, la réponse à la démarche de Dieu. La foi est la réponse, ta réponse à l'engagement de Dieu. Comprenez ? Mais tu restes toujours libre. Et donc, les émotions de Dieu redisent aussi son dégoût du mal et du péché qui détruisent l'homme, qui détruisent l'image de Dieu en toi. À RCF Alpha, ils interviewaient un jour à RCF Alpha le jardinier de Versailles, qui est un homme de foi, et il disait dans sa colère, c'était beau, il demandait, il exigeait que Dieu vienne sur terre, qu'on puisse le voir. Vous savez pourquoi ? Pour que le méchant refuse d'être méchant, qu'il renonce à sa mauvaise conduite. En voyant Dieu, il refusera de faire le mal. Et il disait ça par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias cette semaine, la semaine dernière, tout ce qui concerne le monde de l'enfance. Je ne vous fais pas un dessin qui peut être parfois extrêmement blessé. Ça touche un nombre incommensurable de gens et d'enfants, quand même. Vous voyez ? Le mal qui détruit l'homme. Enfin, j'arrête. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Et là, c'est facile de ma part. En Jésus, pour le coup, Dieu se fait chair. En Jésus, Dieu se fait émotion. Il pleure quand son ami Lazare meurt. Il pleure d'angoisse, transpire des larmes de sang à Gethsémani. Il est joyeux, il se réjouit, comme un enfant. Il va être étonné du manque de foi de la part de certaines personnes. Il va être triste. Mon âme est triste en mourir, il dira même à Gethsémani, la tristesse qui envahit une personne. Il va être fatigué parfois aussi, avec la Samaritaine, rappelez-vous, au puits, en Saint-Jean. Il va être capable aussi parfois de comprendre de l'intérieur quand quelqu'un ne t'aime pas, ça doit vous arriver quand même, du rejet par rapport à toi, il le sent au fond lui-même par rapport aux Sadducéens qui disent du mal de lui. Il le sent dans son être. Toutes les émotions que tu partages, toi, le Christ a eu exactement, exactement les mêmes émotions parce qu'il est totalement homme, rempli d'humanité comme toi. Il n'y a pas une émotion qui n'est pas traversée et vécue. Et donc, en Jésus, Dieu s'engage totalement dans son corps de chair. Et désormais, il y a un homme qui siège à droite de Dieu avec toutes mes émotions et les tiennes, dans la Trinité. Et donc, Dieu connaît l'homme par son Fils, Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Parce que ça veut dire que Dieu n'est ni un architecte, ni un triangle, ni un mathématicien génie, ou une idée parfaite. Je suis athée de ce Dieu-là. J'aime le Dieu de la Bible, qui respire, comme le dit le Dieu, qui vibre à ce que je vis. Il cherche l'homme, il veut l'aimer. Dans cette passion d'amour, il est donc urgent de proclamer, de vivre et de croire l'Évangile. Amen.